Maire de France, bonjour. Nos communes ont la parole sur Radio Territoria, présenté par Christophe Bordet.
Bienvenue dans Maire de France, bonjour. Nouveau numéro, une fois de plus, sur Radio Territoria. Une France sans médecins. Non seulement le manque de médecins est une réalité dans les hôpitaux, et dans les hôpitaux, il n'y a pas que les médecins qui manquent d'ailleurs. On l'a vu à l'occasion de l'épidémie de Covid, qui n'est pas terminée, mais en plus dans nos villes, nos campagnes, il y a de moins en moins de généralistes. Alors, quelle solution? Comment remédier à ce problème? Pourquoi en est-on arrivé là? Des maires se battent pour que la santé ne soit pas la dernière roue du carrosse dans leur commune. Et c'est le sujet de cette émission.
Je vais vous faire deux petites piqûres pour vous donner de l'appétit.
Ah non, pas de piqûres, hein? C'est impossible! Le médecin me l'avait promis!
C'est lui qui les a ordonnées?
Menteuse! Oh, pas de piqûres, je ne supporte pas les piqûres! Docteur! Piqueuse! Docteur! Docteur! Docteur!
Ah bah tu vas déjà mieux!
Il y en a encore une, monsieur Duchemin! Encore une! Encore une!
Tiens, il y a le docteur Duquesnel qui est avec nous. Vous avez déjà piqué comme dans l'aile ou la cuisse avec De Funès en 1976?
Écoutez, non, puis travaillant beaucoup dans un centre de vaccination, lundi on a fait 500 vaccinations contre le Covid. J'ai entendu personne crier de cette façon-là. Au contraire, tout le monde avait le sourire.
Bon, alors il faut dire quand même, parce que c'est une réalité, hein, que là dans le film... Tout le monde se souvient de ce film, évidemment. L'infirmière est à côté du lit du patient qui s'en va vers la porte et elle cible les fesses comme une cible. Donc là, forcément, piquer comme ça, ça fait très mal, évidemment. Mais ce n'est que du cinéma et encore heureux, bien sûr. En 2019, pour être plus sérieux, 7,4 millions de Français vivaient dans un désert médical. Ville, campagne, tous les territoires sont concernés. Pourtant... 6 000 internes en médecine générale ont été formés en 10 ans. Alors, où sont-ils? Eh bien, on va parler de tout ça avec nos invités. Vous venez d'entendre, évidemment, le docteur Duquesnel, qui est président de la Chambre des médecins généralistes à la Confédération des syndicats médicaux français, qui est avec nous. Nous avons également Emmanuel Lebar, qui est membre du syndicat national des jeunes médecins généralistes. Et merci d'être là également, Emmanuel Lebar. Et puis, Denis Jouot, qui est maire de Landelles et Coupigny. C'est près de Vire, en Basse-Normandie. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour, bonjour à tous.
Comment allez-vous, monsieur le maire?
Bah, très bien, sans médecin, mais ça va quand même.
Et pas de piqûre non plus? Tiens, vous êtes vacciné contre le Covid, là, maintenant, ou pas?
Bah, vacciné, oui, justement, dans notre petite commune, on a fait une campagne de vaccination. Donc, on a vacciné 140 personnes samedi dernier.
Bon, eh ben voilà, ça c'est toujours ça de fait, comme on dit, dans une commune de 900 habitants. Alors, évidemment, commune que je ne connais pas directement, mais je connais un peu mieux Vire, hein, pour ne rien vous cacher, parce qu'il y a un peu de sang normand qui coule en moi. Et c'est vrai que quand on pense à Vire, on pense tout de suite à la très bonne crème des vaches normandes de Vire, connue probablement dans le monde entier, hein, pour être clair. Bon, on va donc débattre du sujet du jour, hein, cette France sans médecin. Alors, je le disais, Landelles et Coupigny, 900 habitants, pas facile de trouver un médecin dans votre secteur. Quelle est la situation chez vous, monsieur le maire?
Bah, la situation, c'est un fait avéré. Les médecins ne sont plus attirés par les campagnes. Enfin, ou alors je peux me tromper, j'espère. Mais c'est quand même un fait réel. Et nous, depuis 10 ans, on n'a plus de médecin dans notre commune. Le plus proche médecin est à 7 km.
7 km.
Ouais. Donc, une population vieillissante, forcément, comme un petit peu dans toutes les campagnes. Donc, même si on profite, entre guillemets, de l'effet Covid, où on s'aperçoit que nos maisons vacantes sont réhabitées par des jeunes et tout ça, donc là, il y a un regain de population, donc on est vraiment à la recherche d'un médecin et ça pose un gros problème.
Alors, on va continuer avec Dr Emmanuel Lebar, qui représente les jeunes médecins. On vient d'entendre, et on va lui redonner la parole, Denis Jouot, le maire de Landelles et Coupigny. Alors, il le dit, tout d'abord, il dit, voilà, le problème, c'est qu'on est à la campagne et que, dites-moi si je me trompe, mais les médecins, aujourd'hui, ne sont pas attirés par le fait d'aller travailler et soigner à la campagne. Est-ce que c'est une réalité chez les jeunes médecins?
Alors, je pense qu'on ne peut pas être aussi catégorique. Je crois que les personnes qui vont souhaiter s'installer à la campagne ou qui y vivent déjà, parmi elles, il y a des jeunes médecins. Je pense que c'est davantage la peur de se retrouver en situation isolée, que ce soit en termes de réseau de soins ou de services publics en général dans l'endroit où on va s'installer.
Oui. Dites-moi, docteur Emmanuel Lebar, on parle de la campagne, mais les grandes villes aujourd'hui ont exactement le même problème que la campagne. Parce que les déserts médicaux, il y en a au cœur de Paris, au cœur de la capitale, par exemple. Comment en est-on arrivé là ?
Alors, je crois que dans cette histoire de désert médical, il y a plusieurs choses dont on ne parle pas assez et dont on pourrait parler plus. Et la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites sans médecin en réalité. C'est-à-dire qu'on surmédicalise beaucoup en France des choses par rapport à d'autres pays, alors qu'on pourrait en fait tirer parti d'autres professionnels de santé qui sont tout à fait qualifiés pour les faire et qui sont répartis sur les territoires et qui éviteraient d'avoir une espèce de goulot d'étranglement parfois sur le médecin. Par exemple, je pense aux sages-femmes qui peuvent tout à fait faire les consultations de contraception, les poses de stérilet ou les frottis. Ça, ce sont des choses qui sont beaucoup faites par les médecins, mais finalement, on a d'autres professionnels de santé qui sont formés et qualifiés pour le faire, et donc on perd finalement ce bénéfice.
Alors, j'entends ce que vous dites, cela étant, vous le savez comme moi, c'est un peu dans nos gènes, si je puis dire, on adore avoir son médecin, et puis on a besoin d'avoir son médecin de famille aussi. Donc c'est vrai que se dire, bon, finalement, pour tel ou tel problème, je vais aller voir, par exemple, le pharmacien, parce qu'il va pouvoir, à un moment, me vacciner, ou bien je vais aller voir la sage-femme, comme vous dites, etc. C'est très bien, mais on aime bien avoir un médecin référent qui est, entre guillemets, capable de nous donner une vision globale de notre état de santé. Et on a besoin de cette relation directe. Donc, est-ce que c'est pas se tromper justement de dire, s'il n'y a pas de médecin généraliste ou pas assez, c'est pas grave, il y a d'autres professions qui peuvent prendre en charge sur certains points.
Alors, je pense que c'est vraiment plusieurs problèmes intriqués et qu'il y a effectivement le fait qu'il y a un manque de médecins généralistes aussi dans certains endroits. Mais finalement, ce problème du manque de médecins généralistes est régulièrement abordé sous l'aspect d'un déficit numéraire en médecins, et on ne s'intéresse pas assez, je pense, à la façon dont on distribue les médecins sur le territoire, où on laisse beaucoup cette distribution se faire de façon individuelle par la bonne volonté du jeune médecin qui va aller lui-même décider de s'installer quelque part dans un cabinet libéral, alors qu'on pourrait avoir une façon de répartir les médecins généralistes différentes. On pourrait les salarier, comme le font plusieurs municipalités et comme le font des pays limitrophes. Je pense à l'Espagne, par exemple, qui a un système de dispensaires de médecins généralistes qui est réparti, par exemple, en fonction de la population du territoire.
Oui, mais ça veut dire obliger des médecins généralistes, peut-être, comme on oblige d'ailleurs les jeunes profs ou les jeunes instits à aller dans le nord de la France pour démarrer leur carrière ou en région parisienne. Il faudrait faire la même chose pour les médecins, obliger les jeunes médecins à aller dans les zones comme ça en grande difficulté, sur une période donnée.
Alors,
par exemple.
Je crois que cette idée que l'on a des obligations sur les médecins n'est pas très juste, parce qu'il faut quand même rappeler que les personnes qui souffrent aujourd'hui d'être obligées d'aller quelque part, d'aller à 7 km lorsqu'ils sont malades, ce sont les usagers des soins. Donc je crois qu'il n'y a pas une histoire d'obligation. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait pouvoir offrir des postes intéressants, qui peuvent très bien être des postes salariés distribués dans des centres collectifs, par exemple, qui intéresseraient tout à fait les médecins et qui seraient répartis de façon plus intelligente par rapport à la population. C'est vrai qu'on peut comparer avec les écoles, mais finalement, il y a une comparaison quand même qui est assez logique, dans le sens où ce sont des services essentiels à toute la population qu'on ne peut pas simplement laisser se répartir au bon vouloir de chacun.
Denis Jouot, qui est avec nous à nouveau, le maire de Landelle et Coupigny près de Vire au téléphone. On vient d'entendre à l'instant Emmanuel Lebar. Bon, voilà, qui dit bon, le problème de la campagne, le fait que les médecins veuillent pas aller à la campagne, c'est pas forcément ça. C'est plus complexe que ça. Alors c'est vrai que parfois, quand on se retrouve dans des zones où on a peur de pas d'être un peu seul, de pas avoir de service autour de soi, de commerce, etc. C'est pas facile à vivre. Vous par exemple dans votre commune, comment vous avez envie d'attirer un médecin? Qu'est-ce que vous avez imaginé?
Non, mais déjà, moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que dans notre commune, comme beaucoup de communes rurales, on a quand même tous les atouts, c'est-à-dire qu'on a tous les commerces qui sont là, on a les écoles, et après, ce manque de médecins se fait ressentir par le fait que, vous voyez, mon médecin traitant, qui est à 7 km, elle a besoin aussi d'être entourée. Donc, quand je lui ai dit, moi, clairement, que je recherchais un médecin et que j'allais peut-être changer de praticien, elle a été tout à fait compréhensive et elle m'a dit, au contraire, elle m'aide, puisque elle est bien consciente que même pour elle, c'est vital d'avoir quelqu'un autour d'elle, pour des remplacements, pour des vacances. On comprend bien que, on parlait du médecin de famille tout à l'heure, le médecin de famille d'il y a 50 ans, vous parliez de Vire, si on parle du père Drucker, forcément, lui, il était là, il faisait 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ça n'existe plus, je suis d'accord. Mais justement, on a moyen de je pense, avec les praticiens des communes aux alentours, de pouvoir mutualiser et de pouvoir avoir des vacances, de pouvoir tourner et de pouvoir travailler ensemble.
Oui, mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour attirer un médecin, concrètement? Vous essayez de mettre quoi en œuvre?
Concrètement, là, on est en train de réhabiliter notre ancienne cantine. En cabinet médical, donc on a des infirmières sur la commune, donc ils vont venir aussi dans ce local-là. On va faire une salle d'attente toute neuve, un cabinet tout neuf. On remet vraiment le praticien qui va arriver, il n'aura plus qu'à mettre les pieds sous le bureau et attendre les patients, quoi.
Est-ce que de votre côté, monsieur le maire, quelque part, vous n'avez pas l'impression aussi que finalement c'est difficile d'attirer un médecin, parce qu'en réalité il faudrait faire ce que disait le docteur Emmanuel Lebar il y a un instant, c'est-à-dire peut-être se dire que la communauté de communes ou votre commune, mais je doute qu'elle ait les moyens, mais peut-être la communauté de communes salarie ce médecin.
Pour notre commune, c'est très compliqué, parce que voilà, on est une commune, comme on disait tout à l'heure, d'à peine 900 habitants. Donc même si on peut rayonner avec les communes aux alentours, où il y a une patientèle qui est la plus importante, mais pour nous, avoir un salarié supplémentaire, c'est compliqué. Et donc la communauté de communes, nous, c'est Vire, hein, c'est la Vire au Noiron. Pour l'instant, on n'a pas pris la compétence médicale. Donc, clairement, elle ne va pas vouloir embaucher un médecin, quoi.
Luc Duquesnel, qui est également avec nous, président de la branche des médecins généralistes à la Confédération des syndicats médicaux français. Quel est votre sentiment, docteur, sur cette pénurie de médecins dans certains coins de France aujourd'hui et par rapport à ce que l'on a déjà entendu, là?
Alors, d'abord, au-delà de mes responsabilités syndicales, je voudrais d'abord me présenter. Je suis médecin généraliste en Mayenne, dans le Nord Mayenne, ce qui n'est pas très loin de Vire.
Oui.
Dans le troisième département français avec la plus faible démographie en médecins généralistes. Je suis co-gérant d'une maison de santé pluriprofessionnelle qui est avec quatre maisons de santé pluriprofessionnelles sur un territoire rural de 43 000 habitants. On est 94 professionnels de santé libéraux, des médecins généralistes, des infirmières. Voilà, tout ça sur un territoire rural et semi-rural. D'ailleurs, aujourd'hui, je coordonne les 8 centres de vaccination ambulatoire menés par les médecins généralistes, les infirmières et les pharmaciens sur le département. Donc, ce qui veut dire, pourquoi je précise cela? C'est-à-dire qu'en effet, moi, quand je me suis installé il y a 32 ans, j'avais plein de confrères qui allaient, des jeunes médecins, qui ne voulaient pas reprendre des patientèles parce que c'était cher et qui allaient s'installer dans des petits villages. Où aujourd'hui, en effet, ces petits villages, ça ne veut pas dire qu'il y avait des besoins de santé particulièrement, mais c'est-à-dire pour casser la croûte, il n'y avait pas le choix. Or, ces petits villages, aujourd'hui, un certain nombre perdent leur médecin pour au moins deux raisons. vous l'avez dit, la démographie médicale, mais aussi parce que quelque part, aujourd'hui, nos patients ont changé, le vieillissement de la population qui amène à travailler de façon coordonnée, pluriprofessionnelle, les médecins avec les pharmaciens, les infirmières, et qu'aujourd'hui, à terme, on verra que dans 10 ans, je pense que l'exercice isolé, je suis tout seul, moi médecin, je fais tout seul, ce type d'exercice deviendra obsolète progressivement.
Oui.
Et je pense que, par exemple, le bon réflexe de, et M. le maire l'a dit, par rapport à la communauté de communes qui ne s'était pas pris la compétence de santé, je pense que la réflexion de l'offre de soins pour la population d'un territoire ne doit plus être la commune, au moins pour ce qui est nos zones semi-rurales. Ce ne serait pas la même chose pour la ville de Caen ou des grandes agglomérations. Mais en tout cas, je pense que ce n'est plus la commune, c'est la communauté de communes. Ce qui évitera d'ailleurs de voir ce qu'on voit dans certaines régions de France, des maires qui, avec plein de bonnes intentions, réhabilitent des locaux pour faire venir des médecins, mais chacun dans son coin, et qui se trouvent d'ailleurs en concurrence les uns les autres, et qui parfois d'ailleurs vont prendre les médecins d'une commune voisine ou à 20 ou 30 kilomètres pour les faire venir chez eux. Voilà, je crois que la réflexion, donc nos patients changent, nos organisations professionnelles doivent changer, et que je pense que le territoire n'est plus forcément la commune.
Alors, moi, je voudrais juste dire un ou deux chiffres qui me semblent importants. En 2019, 7,4 millions de Français vivaient dans un désert médical, ce qui est absolument, évidemment, considérable. Et quand on regarde un autre chiffre, on se pose une question. Je voyais tout à l'heure que 6 000 internes en médecine générale ont été formés en 10 ans. Et j'ai envie de vous dire, Luc Duquesnel, et je poserai la question après à Emmanuel Lebar, mais où sont ces 6 000 internes en médecine générale? Où sont-ils?
Alors, quelle est la définition? Vous avez parlé en effet de ce texte, ces 7 millions de Français. Quelle était la définition d'un désert médical pour définir ces 7 millions de patients?
Je n'ai pas le détail, mais vous l'avez peut-être, vous, qui êtes un spécialiste de la question.
Oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que les critères retenus ne permettent absolument pas de définir aujourd'hui ce qu'est... Il y a d'autres critères qui sont retenus ailleurs. On sait qu'aujourd'hui, vous avez à peu près la moyenne, je crois que c'est 12% de la population française sans médecin traitant, et en sachant qu'il y a 7% de la population française qui ne souhaite pas, parce qu'elle n'est pas malade, elle n'a pas besoin, ne souhaite pas avoir de médecin traitant, donc ça ramène à 5%. Et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on parle beaucoup de l'accès aux médecins généralistes. Et tout à l'heure, monsieur le maire trouve que 7 km, c'est trop loin, alors que parfois, on fait 50 km pour aller voir son cardiologue ou 70 pour aller à l'hôpital.
Oui, mais c'est pas parce qu'on fait 50 ou 70 km, justement, qu'il faut s'en réjouir.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, là, ce qu'on a envie, c'est d'avoir des soins de qualité. Et que, très clairement, moi, en tant que médecin généraliste sur mon territoire, dans ma maison de santé, comment je travaille avec les infirmières, je fais des téléconsultations assistées pour m'éviter des visites, on prend en charge des soins dans une structure où très clairement, plein de choses que je ne pourrais pas faire, on a acheté du matériel pour dépister certaines maladies parce qu'on a mis ça en commun et que je ne pourrais pas faire si j'étais installé tout seul dans un village. C'est-à-dire que moi, il y a 30 ans, quand je me suis installé, je ne faisais pratiquement que des soins aigus, c'est-à-dire que quelqu'un avait un problème de maladie, il venait, et puis je dirais qu'en théorie, à la fin du traitement, il était guéri. Aujourd'hui, on est sur des pathologies chroniques qui nécessitent un suivi, et un suivi pluriprofessionnel. Et cette coordination, pour se coordonner, eh bien, ce que je veux dire, c'est que, alors, ce n'est pas obligatoire, mais quelque part, le fait, la proximité, le fait d'être ensemble, ça favorise la coordination et ça améliore la qualité des soins. Parce que je pense qu'il faut aussi travailler sur la qualité des soins. Alors surtout, ne prenez pas ce que je dis pour dire qu'il n'y a pas de problème d'accès aux soins en France. C'est pour ça que, c'est en train de bouger, se créer des communautés professionnelles territoriales de santé, qu'on travaille avec les autres professionnels pour voir comment on peut se coordonner. Moi, voir moins souvent mes patients, mais que ce soit l'infirmière qui les voit à domicile, pour suivre le patient insuffisant cardiaque, le patient asthmatique, toutes ces choses-là, c'est-à-dire, c'est en train de se mettre en place progressivement. Alors, à certains endroits, plus rapidement qu'à d'autres, et c'est travailler éventuellement, c'est parce que moi, je connais des départements ruraux, et sans aller salarier des médecins, où globalement, il n'y a pas de problème d'accès aux soins. Aujourd'hui, il y a de multiples aides, chacun travaille dans son coin, Et globalement, on n'a jamais étudié qu'est-ce qui fait qu'il y a des départements qui s'en sortent mieux que d'autres. Mmh. Et c'est vrai que c'est regrettable.
Emmanuel Lebarre, je vous donne la parole à nouveau, docteur. Vous partagez le sentiment de Luc Duquesnel, son analyse ?
Donc, je partage avec lui le fait qu'on doit avoir aujourd'hui un exercice plus collectif, plus coordonné, que l'idée d'être professionnel de santé isolé n'est pas adaptée. Par contre, je pense que les zones sous-dotées existent réellement et on sait que ce sont les zones qui sont aussi les moins attractives pour les installations de médecins. Il y a quand même un réel problème à ce niveau-là, c'est-à-dire des endroits où ils sont un petit peu surdotés en médecins, où c'est difficile de se faire sa place parce que c'est un endroit attractif pour s'installer.
On pense au sud-est de la France, par exemple, où il y a le soleil et la Méditerranée. Là, pour le coup, on a tous envie d'y aller, hein, qu'on soit médecin ou pas, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde.
Voilà.
Ouais.
Bah, disons que si on se laisse la possibilité que chacun peut aller dans l'endroit qu'il choisit, exercer de la façon dont il a envie. Donc, je pense aussi, par exemple, à des spécialistes qui vont choisir de s'orienter sur des choses qui ne sont pas vraiment les soins primaires. Par exemple, un dermatologue qui va décider de faire beaucoup de laser, ou même des médecins généralistes qui vont décider de faire ça parce que ce sont des actes qui rapportent pas mal. Eh bien, ce sont des soins en moins. C'est-à-dire qu'on dit, on a formé tant de médecins, oui, on a formé tant de médecins, mais à aucun moment, finalement, on a fait un pacte avec ces médecins qu'ils allaient effectivement travailler dans les soins primaires à certains endroits. Donc après, c'est difficile de s'étonner que certains aient choisi en fait la facilité, les actes les plus rentables dans les endroits les plus attrayants. Il y a quand même un souci à ce niveau-là. Après, moi, je pense que de ce que je vois autour de moi, des jeunes médecins et des jeunes internes en médecine générale, la plupart ont vraiment envie de travailler en collectif, dans des centres collectifs. Ils n'ont pas très envie de s'installer en cabinet libéral et d'avoir leur propre entreprise et tous les soucis que ça cause, surtout quand on se retrouve en milieu rural et qu'on ne connaît pas bien l'endroit. Donc, il me semble qu'il y aurait vraiment des choses à faire, parce que les jeunes médecins sont prêts à changer cette répartition. Et c'est vrai qu'on donne très peu la parole aux jeunes médecins, aux jeunes internes. On entend beaucoup les anciens syndicalistes de toujours, mais je crois que les jeunes médecins n'ont pas envie de continuer sur cette même voie et sont vraiment ouverts à un changement de système pour cette répartition.
Oui. Donc, en clair, vous dites les jeunes médecins, eux, sont prêts à bouger. Le cas échéant, je voudrais vous poser une petite question quand même, parce qu'un médecin généraliste me racontait l'autre jour que finalement, dans les jeunes médecins aujourd'hui, la majorité d'entre eux sont des femmes. Quand on est une femme, on a aussi un projet de vie, on a envie d'avoir un enfant, etc. etc. Et on imagine, docteur Emmanuel Lebarre, que quand on est une femme, aller s'installer à la campagne, se sentir, le cas échéant, un peu seule, enfin voilà, ça aussi, ça vient renforcer la problématique. Une majorité de médecins qui sortent aujourd'hui des études sont des femmes. Est-ce que c'est une réalité, ça ?
Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup d'arguments qui disaient « Ah, ben maintenant, c'est que des femmes, alors voilà, elles ne veulent pas travailler, elles veulent garder les enfants, donc voilà où on en est. »
Non, mais ça, c'est normal. C'est normal que les femmes veuillent des enfants. Les hommes aussi, d'ailleurs, en veulent, donc voilà.
Mais finalement, le fait que… Alors, effectivement, la profession, c'est vraiment féminisé. Et oui, il y a sûrement chez les femmes une demande plus forte d'avoir un emploi du temps normal, en fait. Et finalement, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable aujourd'hui, avec le nombre de médecins qu'on a, de les répartir de façon intelligente et de faire en sorte qu'ils aient un emploi du temps qui soit vivable. Ça, effectivement, ce n'est pas possible si on est le seul médecin dans la zone pour beaucoup trop de personnes, où on doit faire des semaines absolument impossibles, incompatibles avec la vie familiale. Mais si on organise des choses de façon... plus organisé en fonction du territoire et de la population, avec plusieurs médecins, c'est tout à fait possible en fait de s'organiser un emploi du temps compatible avec la vie de famille. Et c'est mieux pour tout le monde et c'est juste logique, finalement.
Est-ce qu'au niveau du numerus clausus, je crois qu'il a été en partie levé, si j'ai bien compris ce qui s'est passé ces derniers mois. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ça va un petit peu mieux? Est-ce que d'ailleurs, ce métier de médecin, généraliste notamment, attire toujours ou pas?
Oui, ça attire toujours, tout à fait. Je crois que sur l'histoire du numerus clausus, oui, il a été un petit peu relevé, mais il n'est pas du tout totalement lâché.
C'est ça.
Après, oui. Le nombre de médecins, finalement, est assez important et n'a pas vraiment bougé, en fait. Je crois que...
On est à combien de médecins en France, à peu près, là, globalement, vous savez, ou pas?
Je l'avais noté, oui, tout à fait.
Non, mais vous me direz, c'est pas grave, on va continuer... On va continuer
218
l'interview.
218 000, voilà.
Bon, 218 000.
J'avais 218 000. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont attirés par la médecine générale, mais beaucoup de jeunes internes qui sont rebutés par l'idée d'aller s'installer seuls, monter un cabinet.
Non, j'entends ce que vous dites. Après, c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Luc Duquesnel, entre il y a 30 ans, au moment où il a commencé, et puis évidemment maintenant, les choses ont un petit peu évolué. Et c'est vrai que moi, je vais vous dire, en tant que patient, je suis toujours un petit peu choqué parce que d'un côté, j'ai l'impression, comme disait Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français. Donc là, moi, j'ai envie de dire, il faut arrêter d'emmerder les médecins. Je vais vous donner un exemple. Mais quand vous avez un médecin à Paris, dans le 18e arrondissement, qui est au premier étage d'un immeuble, qui est là depuis des années, et tout d'un coup, on lui dit, il faut mettre un ascenseur, que la copropriété refuse de mettre un ascenseur et qui dit, puisque c'est comme ça, j'arrête, il n'y aura plus de médecin. Je trouve ça absolument hallucinant. C'est-à-dire, on se dit, on marche sur la tête. C'est un monde de fous. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose, c'est que, pour moi, en tout cas, en tant que patient, j'aimais bien l'idée que le médecin... Alors, vous allez me dire, oui, mais le médecin, il n'est pas là pour se crever au travail. Moi, j'ai envie de vous dire, la médecine, ça doit être aussi un sacerdoce, quelque part. Et moi, je me rappelle de ce médecin généraliste de campagne que j'avais quand j'étais plus jeune, qui ne comptait pas ses heures, qui venait voir le patient le matin, le midi ou le soir, quand on l'appelait, il n'y avait pas de souci, même parfois d'ailleurs la nuit. Il y avait des tours de garde, il n'y a même plus de tours de garde. Maintenant, il faut appeler directement les pompiers à partir de 20h parce que personne ne veut faire des tours de garde. Le week-end, c'est pareil. Si vous voulez, je trouve aussi que, certes, vous voulez tous vivre mieux, ok, je l'entends, mais en même temps, voilà, je trouve qu'il y a un certain nombre de règles qui sont passées par là au niveau social, qui ont touché toutes les professions et notamment la vôtre, et que finalement, tout le monde veut faire un minimum d'heures, gagner un maximum de pognon, et que c'est un peu gênant, je trouve, de la part des médecins. Mais bon, tiens, on va laisser Duquesnel nous répondre. Luc Duquesnel, il lève le doigt en plus, il est bien élevé, Luc Duquesnel, hein, ouais. Comme merci. À l'école autrefois, ouais. Bravo. Hein.
Ouais. Exactement, ouais. Et oui, j'ai encore des restes. premièrement, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, connaissant bien cette région, en PACA, il n'y a pas trop de médecins. Si vous regardez juste la côte, en effet, il y a une densité de médecins généralistes plus importante, vous regarderez, la majorité, ils ne sont pas médecins traitants. Ils sont sur des spécificités homéopathes, acupuncteurs. Donc globalement, aujourd'hui en France, je ne connais pas de zone avec une surdensité médicale. Et vous parlez de Paris. Paris est un désert médical. Première chose. Deuxième chose, pour les jeunes, je me référais au sondage fait par le syndicat des internes en médecine générale, l'ISNAR-MG. La majorité des internes en médecine générale veulent s'installer en libéral et ne sont pas opposés aux zones rurales. Ce qu'ils veulent, c'est des organisations professionnelles, celles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui soient adaptées pour mettre en place un exercice coordonné. Donc, ils n'y sont pas, ils n'y sont absolument pas opposés. Donc, ça, je crois que c'est important. Alors, après ça, vous disiez, ils sont où tout à l'heure, ces jeunes, ces 6 000 internes? Ben, faut savoir que ces 6 000 internes, c'est aussi eux qui font tourner les hôpitaux.
C'est vrai.
Et que, qu'aujourd'hui, vous retirez les internes des hôpitaux, eh bien, ces hôpitaux, ils ferment.
C'est la cata, oui.
C'est la cata. Et vous parliez tout à l'heure, ben, j'ai plus de médecin à 20h, il faut appeler les pompiers. Ben, écoutez, moi, je suis en Mayenne. Je vous ai dit, le troisième département avec la plus faible démographie médicale. Ce soir, et pour tout le pont, ce soir, à partir de 20h jusqu'à lundi matin, 8h, il y a 8 médecins de garde sur le département. Il y a 8 territoires, donc 8 médecins de garde avec 8 d'astreinte si jamais celui qui est de garde a un problème.
Oui, mais il y a d'autres territoires où il n'y a plus de garde, monsieur. Je suis désolé.
Mais, la majorité, c'est le Conseil national de l'ordre qui publie ça tous les ans, hein, ça fait référence pour toute la profession et les autorités politiques, la majorité du territoire français, alors vous avez raison, il y a des trous dans la raquette, mais il y a un moment, j'aime bien qu'on parle aussi de ceux qui marchent, y compris dans des territoires ruraux. Et je vous dis, moi, il y aura un médecin régulateur qui commence à 20h ce soir, il se succède.
Ah ben tant mieux.
24h sur 24, ça veut dire quoi? Et c'est pour ça, qu'est-ce qui fait qu'il y a des départements ruraux où ça marche, et puis il y en a d'autres. Alors ça marche, je ne veux pas vous dire que tout est parfait, hein, je ne veux pas dire que la vie est belle en Mayenne et qu'il n'y a pas de
on va tous venir habiter en Mayenne, tiens, on va vous rejoindre.
Non.
Oui.
Pourquoi pas, mais bon, il y a moins de Covid en ce moment, c'est mieux qu'au mois de juillet l'an dernier. Mais c'est aussi s'interroger là-dessus. Je vais prendre par exemple un élément qu'on a, l'assistant médical, l'assurance maladie depuis 2 ans. Propose entre autres à tous les médecins, mais y compris les médecins généralistes, de pouvoir embaucher un assistant médical à mi-temps, à tiers de temps, à temps plein. Moi, je connais des confrères qui, en France, mais c'est comme ça qu'on travaille maintenant en Allemagne, les médecins généralistes, qui embauchent des assistants médicaux temps plein, et ils ont des aides de l'assurance maladie pour ça, souvent au niveau infirmière, et le fait de travailler ainsi, 35 heures par semaine, puisque l'infirmière est salariée 35 heures par semaine, travaille avec le médecin, prennent en charge 20% de patients en plus, et que quand vous les interrogez, le médecin dit « plus jamais comme avant », et quand vous interrogez les patients, ils disent « mais maintenant, je suis bien mieux pris en charge, j'ai dit des choses à l'assistant médical que je n'ai pas dit à mon médecin depuis 20 ans », c'est-à-dire c'est modifier ces organisations professionnelles. Alors c'est vrai qu'il y a plein de freins, les freins sont multiples, d'abord il y a des médecins qui ont peur du changement, il y a d'autres médecins qui disent « mais je suis obligé de déménager, mes locaux ne s'y prêtent pas ». Mais c'est là que, par exemple, les élus, moi, le maire dans ma commune, on est pourtant dans une MSP toute neuve, ben on va peut-être péter tous les murs pour mettre en place l'assistant médical dans chaque cabinet médical. Voilà, c'est-à-dire que c'est efficace dès le lendemain. Ce n'est pas tant de 10 ans qu'on a augmenté. C'est très bien d'augmenter le numerus clausus. Mais pour autant, c'est une mesure dont on sentira l'effet dans 12 ans. L'assistant médical, dès que vous l'avez embauché, dès le lendemain, vous prenez en charge plus de patients. Voilà, c'est des moyens comme ça. C'est pas le seul. S'il y avait qu'un seul moyen.
Non, mais des solutions. C'est vrai que vous avez raison. Des solutions, il y en a. Je vais prendre un exemple et puis on va se quitter là-dessus dans quelques minutes maintenant. Mais la région Centre-Val de Loire a carrément décidé de payer des médecins pour qu'ils s'installent dans la région. Donc il y a besoin de 150 médecins dans le Centre-Val de Loire. Bon, alors qu'ils ont réussi à en faire venir une dizaine. Alors, c'est vrai que même en étant payé, tiens, j'ai même le chiffre, 6 000 euros bruts par mois, ce qui n'est pas si mal que ça, comparé évidemment à un certain nombre d'autres salaires. Bon, évidemment, d'autres professions qui demandent moins d'études aussi, hein, parfois. Mais bon, en tout cas, c'est une idée qui peut fonctionner au niveau régional. Moi, j'ai envie de demander justement à Denis Jouot, pour terminer, maire de Landelle et Coupigny, cette histoire de salariat, j'y reviens. Est-ce que vous avez fait une demande, je sais pas, auprès de la région, chez vous en Normandie, auprès de Monsieur Morin, pour que ce genre de choses puissent se mettre en place, par exemple? Est-ce que c'est pas une solution?
C'est peut-être une solution. C'est effectivement, j'ai pas posé la question au niveau de la région. Au niveau du département, j'ai déjà eu des contacts avec l'ARS et tout ça. Et effectivement, l'ARS, pour l'instant, n'a pas levé le petit doigt, quoi. Pour l'instant, on se débrouille nous-mêmes. Ils nous mettent pas de frein, forcément. Allez-y, trouvez un médecin, il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais débrouillez-vous, quoi.
Oui. Alors ça c'est...
On n'a pas plus...
C'est aussi un autre problème, l'ARS. Enfin, les ARS, il y a quand même un problème de fonctionnement. On l'a vu ces derniers mois avec la crise Covid. Ça n'a pas toujours été d'une efficacité absolue. Hein.
Non, mais bien sûr. Mais au niveau du conseil départemental ou régional, pour l'instant, il n'y a pas plus d'aide que ça, quoi.
Merci beaucoup, en tout cas, Denis Jouot, d'avoir été avec nous au téléphone, puisque malheureusement, on ne vous entendait pas bien au début de l'émission en visio. Vous êtes maire de Landelle et Coupigny, près de Vire. C'est en Basse-Normandie. On vous souhaite plein de bonnes choses pour qu'enfin ce médecin aille dans votre secteur. Voilà, si vous êtes médecin généraliste, si vous êtes un jeune médecin, allez du côté de Vire, c'est sympa là-bas. Et en plus, on respire bien.
Ouais.
Bah oui.
Exactement. Nous, on attend tout le monde. Là, vers Emmanuel Lebar, elle peut m'envoyer ses collègues, il n'y a pas de problème, ils seront bien reçus.
Tiens, et Emmanuel Lebar, on va demander une petite question à Emmanuel Lebar. Emmanuel Lebar, vous êtes jeune médecin, est-ce que vous iriez, vous, à Vire?
Je ne sais pas, je suis encore interne en fait, donc je ne suis pas encore déterminée de savoir où je vais aller, mais comme je vous expliquais, je suis plutôt attirée personnellement par un exercice collectif où je pourrais travailler avec plusieurs autres.
Mais là vous pourriez travailler avec un autre médecin qui attend de l'aide justement à 7 km de chez Monsieur le maire. Donc voilà, écoutez, en tout cas, si vous connaissez évidemment d'autres internes qui veulent s'installer, il faut les envoyer du côté de Vire. Et c'est plutôt sympa. Parfait. Là-bas. Voilà. Merci à vous d'avoir participé également. Merci à Monsieur le maire. Merci évidemment à Luc Duquesnel. L'expérience qui fait la différence, c'est Luc Duquesnel. Voilà. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de dire ça parce qu'on sent quand même qu'il y a de l'expérience derrière tout ça. Et je vous souhaite le meilleur, évidemment, du côté de la Mayenne. Et j'espère que, évidemment, la population là-bas continuera d'être finalement assez bien soignée, d'après ce que vous nous dites. Voilà, dernier moment de cette émission. Monsieur le maire, on vous a déjà remercié. Maire de France, bonjour, se termine. Et évidemment, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Radio Territoria. On vous souhaite le meilleur, à très vite.
Maire de France, bonjour. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.